Bonjour à chacune et à chacun ce matin. Nos rangs sont un petit peu clairsemés. Il faut croire que ce sont les vacances pour plusieurs. Je vous invite ce matin, nous allons prendre la scène. Et je vous invite, en guise de message, de nous arrêter sur ce que signifie pour nous le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Qu'est-ce que cela représente vraiment? D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle signifie? C'est vrai que dans notre Église, nous la partageons généralement deux fois par mois, et cela vaut donc la peine de nous arrêter un petit peu sur ce qu'elle représente pour nous. D'où vient cette habitude? Et pourquoi est-ce que Jésus, avant de donner sa vie en sacrifice, l'a partagée pour la première fois avec ses disciples? Il y a dans les églises protestantes évangéliques deux pratiques, qu'on peut appeler aussi deux sacrements ou deux rites, qui nous ont été enseignés par le Seigneur Jésus et qui sont pratiqués dès la toute première Église, c'est-à-dire dès que le Christ est remonté au ciel, lorsqu'il y a eu les premières Églises. Ces pratiques ont été mises en place. Il s'agit du baptême, d'une part, et du partage de la scène, d'autre part. Alors, quels sont les différents noms de la scène, parce qu'il y a différents noms qui ont été utilisés au cours des siècles et encore même maintenant. Alors je n'en fais pas une liste exhaustive, mais c'est juste quelques noms qui sont utilisés pour nous permettre de mieux comprendre ce que c'est. Alors tout d'abord, la Sainte Cène est le nom qui vraisemblablement a été choisi par Calvin, Jean Calvin. Alors Cène, ça provient du latin cena, qui signifie le repas du soir. Un autre nom aussi qui est employé, le repas du Seigneur ou la table du Seigneur. Un autre nom encore, la fraction du pain, en souvenir de donc ce pain qui est rompu, en souvenir du corps de Christ qui a été brisé pour nous. Un dernier nom que je vous cite, la communion. La communion parce que c'est vrai que dans la Bible on voit que la Sainte Cène, c'est la communion au corps et au sang de Christ. L'importance de la scène, est-ce que c'est vraiment si important que ça finalement? Alors différents points par rapport à ce sujet. Tout d'abord, le fait que c'est Christ lui-même qui l'a inauguré lors de son dernier repas avec ses disciples. Donc avant sa mort, juste avant son arrestation, c'est lui qui l'a inauguré et c'est Dans le récit de Luc, on voit Jésus qui recommande à ses disciples « Faites ceci en souvenir de moi ». C'est-à-dire, non seulement il l'a prise avec eux, il l'a partagée, mais en plus, il leur demande de faire cela en souvenir, pour se rappeler. Partager la scène est donc une obéissance à un commandement de Jésus. Ce qui est intéressant de se rappeler aussi, c'est que Jésus-Christ a partagé la scène avec ses disciples tout de suite après leur avoir lavé les pieds. Et c'était donc ce qu'ils ont vécu ensemble. Jésus s'est abaissé devant ses disciples, il leur a lavé les pieds. Ensuite, ils ont pris le repas de la Pâque. Et pendant ce repas, il a partagé avec eux cette première scène. Lorsque Paul a repris les Corinthiens sur leur façon de pratiquer le repas du Seigneur, il les a encouragés à partager le pain et la coupe dans une attitude respectueuse et en discernant le corps du Seigneur. Et là, c'est intéressant de voir que si dans l'église de Corinthe, il y avait un laisser-aller, un certain désordre, lorsque Paul les a repris à ce sujet, il les a encouragés non pas à arrêter de prendre la scène, mais au contraire à continuer à prendre la scène, mais avec ordre et avec respect. Le partage de la scène nous rappelle la mort de Jésus-Christ à la croix. La mort, bien sûr, et la résurrection qui a accompagné cette mort. C'est le message qui est au centre de la Bible entière. La mort et la résurrection de Christ. L'Ancien Testament est entièrement orienté vers le sacrifice de Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous conduit, nous amène à Jésus-Christ. Il l'annonce, il le prépare. Le Nouveau Testament, quant à lui, découle de la mort, mais surtout de la résurrection de Jésus-Christ. Il en est la suite logique. Enfin, après sa résurrection, Christ a cheminé avec deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc ces deux disciples ne faisaient pas partie des apôtres. Jésus-Christ a cheminé avec eux, et figurez-vous, ces deux disciples ne l'ont pas reconnu. Mais c'est lors du repas qu'ils ont pris ensemble, ou au début de ce repas, et au moment où Jésus a partagé le pain avec ses disciples, qu'ils l'ont reconnu. Et je vous invite à lire cette rencontre que l'on trouve dans Luc. Luc au chapitre 24, les versets 13 à 34. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Donc, c'était juste le moment après la résurrection de Jésus-Christ, au tout début de la semaine. Donc, ils discutaient ensemble de ce qui s'était passé, suite à la condamnation et la mort de Jésus-Christ. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous ». Car le soir approche, le jour est déjà dans son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. C'est vrai que c'est quand même surprenant de voir à quel point les disciples étaient, comme une bonne partie des Juifs du reste de cette époque, tellement dans l'attente d'un Messie qui délivrerait Israël, qu'ils ne pouvaient pas voir en Christ le Messie venu de Dieu. À tel point que lorsque Jésus leur explique par les Écritures que le Messie devait souffrir ces choses et entrer dans sa gloire, ils ne le reconnaissent pas à ce moment-là. Mais non seulement ils ne le reconnaissent pas, mais ils disent à Jésus lui-même que Jésus de Nazareth était un puissant prophète. seulement un prophète. Mais quand il a rompu le pain et rendu grâce, alors c'est là qu'ils l'ont reconnu. Il y avait donc dans la façon comment Jésus a rompu le pain et rendu grâce pour ses disciples quelque chose de tout à fait particulier. En tout cas, quelque chose de suffisamment marquant pour qu'ils le reconnaissent à ce moment-là. Alors qu'ils ne l'avaient pas reconnu avant quand il leur a expliqué les Écritures qui parlaient de lui. Et pourtant, lorsqu'il était avec eux avant sa mort, il leur avait de nombreuses fois expliqué les Écritures à son sujet. Je vous invite à lire maintenant le récit que Luc nous fait de la première scène. La première scène que Jésus a partagée avec ses disciples. Alors, cette première scène se passe donc dans le dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, le repas de la Pâque. On lit ça dans Luc 22. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit : J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux ferait cela. Alors personnellement, quand je lis ce texte, une question importante qui vient à mon esprit, c'est pourquoi est-ce que Judas a-t-il trahi le Christ ? Et cette question, en fait, elle reste ouverte parce que dans la Bible, il n'y a pas de réponse précise à ce sujet. Ce que l'on sait concernant Judas est le fait qu'il a livré Jésus aux chefs religieux au milieu de la nuit dans le jardin de Gethsémané. C'est que tout d'abord, donc là, en fait, j'énumère quelques points que l'on trouve dans la Bible qui sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour une compréhension de l'attitude de Judas. Tout d'abord, le premier point, c'est que Judas a été choisi par Jésus-Christ comme apôtre au même titre que les autres apôtres, c'est-à-dire au même titre que Pierre, Jacques ou Jean. Par contre, Jésus savait que Judas allait le trahir, parce que Jésus, il sait toutes choses à l'avance. Il a cette faculté de la prescience, c'est-à-dire qu'il sait les choses avant qu'elles arrivent, sans forcément avoir une quelconque influence sur les choses qui vont arriver. Et malgré le fait qu'il savait, Jésus-Christ l'a choisi comme disciple, comme apôtre. Mais Jésus est aussi parfaitement juste. Et il est inconcevable, il me semble, que Judas n'ait pas eu le choix d'accepter ou de rejeter le salut, salut offert à chaque être humain. Le deuxième point qu'on peut soulever ou souligner, c'est le fait que les chefs religieux n'avaient pas besoin de l'aide de Judas pour arrêter Jésus. Ils n'en avaient pas besoin tout simplement parce qu'ils connaissaient bien Jésus, ils savaient exactement qui il était. Et Jésus était à leur disposition tous les jours. Il était tous les jours enseignant au temple, il était parmi eux. Cependant, Jésus n'a pas été arrêté avant le moment de la Pâque. Jésus n'a pas été arrêté avant parce que à chaque fois que les chefs religieux voulaient l'arrêter, lorsque ce n'était pas le moment justement, Christ, il s'échappait, il partait, il n'avait pas la capacité ou la possibilité de l'arrêter. Et c'était même parfois de façon assez surnaturelle qu'il voulait l'arrêter, il s'était donné comme objectif de l'arrêter, et puis Jésus-Christ, il passait au travers de la foule, et il partait, et il restait là, surpris, il ne l'arrêtait pas. Il est important, à mon avis, de bien comprendre cela parce que, en même temps, ça veut dire que Judas n'a pas joué un rôle essentiel ou indispensable dans le processus de rédemption. En effet, la rédemption, on le sait, elle ne vient de Dieu lui-même. Elle ne vient que de Dieu lui-même. Avec ou sans la trahison de Judas, elle se serait accomplie. La rédemption est le fruit de la bonté et de l'amour de Dieu pour nous. La mort de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est la réponse, en fait, aux exigences de la parfaite justice divine. Un troisième élément, qui est peut-être plus un trait ou un caractère de Judas, c'est que Judas était un voleur. Et c'est dans Jean que ça nous est rapporté. En Jean 12, 6, il nous est dit, c'était suite au fait que Marie ait répandu un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus, quelques jours avant qu'il ait été livré. Et puis Judas, à ce moment-là, a dit qu'on aurait eu meilleur temps de vendre ce parfum et de mettre l'argent dans la caisse pour le distribuer aux pauvres. Et là, c'est Jean qui nous dit, il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc il tenait la bourse de Jésus et de ses disciples, et il volait l'argent qui était mis dedans. C'est vrai que comme attitude qui attire la confiance, l'amitié et le respect, il y a mieux. Alors il y a une hypothèse qui a été avancée par plusieurs commentateurs de la Bible, donc ça reste une hypothèse, puisque la Bible elle-même ne se prononce pas à ce sujet. Il y a une hypothèse qui a été avancée et qui est de voir dans la trahison de Judas l'intention d'obliger Jésus à se défendre pour se sortir de ce mauvais pas en manifestant alors sa toute-puissance et par là même à répondre à l'attente d'un Messie qui était censé venir les délivrer à l'époque du joug romain. La trahison de Judas avait-elle comme seul objectif d'obliger Jésus à répondre aux attentes de ses concitoyens? En tout cas, le fait est que, après l'arrestation de Jésus, lorsque il a été jugé, et lorsque Judas a vu que la tournure des événements n'était pas celle qu'il pensait, Judas s'est donné la mort, peu de temps après. Et ça nous laisse, pour le coup, envisager cette hypothèse qui reste une hypothèse. Il se serait retrouvé dépassé par les conséquences de son acte et au lieu d'implorer le pardon de Dieu, il aurait voulu se faire justice lui-même. Alors personnellement, moi ce que je retiens de cet exemple de Judas, c'est que nous devons nous garder de vouloir modifier les plans de Dieu par nous-mêmes. Parce que Dieu maîtrise toutes choses, mais par nous-mêmes, nous avons à rester dans ses plans, dans ses voies, mais à ne pas vouloir, nous, changer les plans de Dieu. Maintenant, nous allons lire une recommandation que Paul fait aux Corinthiens. Et en fait, cette recommandation complète le récit de Luc, et c'est ce que Paul écrit aux Corinthiens sur la scène, suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des débordements dans la façon de partager le repas du Seigneur. Et c'est en 1 Corinthiens 11 qu'on trouve cela. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et je vous propose de nous arrêter maintenant sur trois aspects ou trois facettes de ce que représente la Sainte Cène pour nous. Tout d'abord, un regard vers la croix, donc un regard vers le passé. Ensuite, un témoignage pour aujourd'hui. Et enfin, une fenêtre ouverte vers l'avenir. Un regard vers la croix. En disant « Faites ceci en mémoire de moi », Jésus, lorsqu'il a pris la scène avec ses disciples, a demandé à ce que ce partage du pain et de la coupe soit reproduit par ses enfants, et qu'il sera reproduit en souvenir de l'œuvre de salut qu'il allait accomplir à la croix pour tous les hommes. Ce principe du souvenir dans la Bible n'est pas nouveau. On le trouve déjà dans l'Ancien Testament, où on voit à plusieurs reprises que Dieu demande aux Israélites de lire le livre de la loi en public pour se souvenir de ce qu'il a fait. Il demande aussi aux adultes, dans l'Ancien Testament, de transmettre l'histoire de leur peuple et les interventions de Dieu aux générations futures, c'est-à-dire aux enfants, afin que le peuple élu reste toujours dans la crainte de son nom. C'est donc une façon de transmettre de génération en génération le plan de Dieu pour son peuple. De la même façon, Jésus nous demande, lorsque nous partageons la scène, de nous rappeler de sa mort à la croix qui est la base de notre salut. Il sait que nous oublions facilement parfois, il sait que nous en avons besoin pour nous le rappeler. Nous rappeler le sacrifice de Christ en prenant la scène nous aide aussi à discerner le corps de Christ, c'est-à-dire à prendre dignement la scène, à la partager dans le recueillement, dans une attitude de reconnaissance, de remerciement, de dépendance de notre Seigneur. Prendre le repas du Seigneur dignement n'est possible qu'en nous rappelant que pendant sa mort à la croix, Jésus a payé de sa vie la condamnation que nous aurions dû payer, nous, à cause de notre état de pécheur. Lui qui est sans péché, il a porté notre péché et la condamnation de notre péché, c'est-à-dire la mort est retombée sur lui. À l'époque des Corinthiens, le repas du Seigneur était un vrai repas complet. Ce n'était pas juste un bout de pain, un petit peu de jus de raisin ou un petit peu de vin. C'était un repas complet. Mais certains, dans ce cadre-là, venaient pour le plaisir de se rassasier, c'est-à-dire de manger beaucoup entre eux, entre certains, alors que d'autres, plus pauvres, plus humbles, manquaient du nécessaire et pendant ce même repas avaient faim. Ceux qui se rassasiaient prenaient alors ce repas sans se souvenir de ce que leur salut avait coûté à Jésus. En ce sens, ils prenaient le repas du Seigneur indignement et c'est pour cela que Paul les a fortement réprimandés. La Sainte Cène, c'est aussi un témoignage pour aujourd'hui. Tout comme le baptême, la Cène est aussi une façon de témoigner publiquement, une façon d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Annoncer le salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire aussi annoncer ce qui nous est dit en Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Annoncer le salut en Jésus-Christ, c'est aussi Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est aussi Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Et Jésus nous demande de témoigner de ses bontés jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire pendant tout le temps de l'Église. Ce n'est donc pas à nous de décider quand ce témoignage devra cesser. Jésus nous demande aussi de prendre la scène lorsque nous sommes réunis, lorsque nous sommes ensemble, lorsque l'Église se retrouve. C'est aussi une façon de témoigner de notre union avec Christ et de notre unité entre nous et avec les autres croyants. Unité qui est fondée sur notre union avec notre Sauveur. C'est notre union avec notre Sauveur qui crée notre unité en fait. Et la Sainte Cène, c'est aussi une fenêtre ouverte vers l'avenir ou on pourrait dire aussi ou une prophétie pour l'Église. Après avoir pris la scène avec ses disciples, Jésus leur a dit, Matthieu 26, « Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est vrai que lorsque Jésus annonce cela aux disciples, il leur annonce son prochain départ et donc leur prochaine séparation. C'est dur d'annoncer ça à ses disciples, d'annoncer cette séparation qui est imminente, qui va venir dans les moments qui viennent. C'est tellement dur qu'ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris cette prochaine séparation. Mais en accompagnant cette annonce de la promesse de se retrouver dans le royaume de son Père, Jésus aide ses disciples non seulement à accepter la séparation, mais aussi à garder les regards fixés vers son Père et à attendre la bienheureuse espérance. Et pourtant, les disciples n'ont malgré tout pas compris tout de suite ce message. Jésus leur a pourtant donné là une espérance extraordinaire, la certitude qu'il reviendrait, la certitude qu'il les prendrait avec lui, qu'il nous prendra avec lui, et que nous partagerons un repas, tous ensemble, dans le royaume de son Père. Cette espérance est aussi un petit peu comme une clé pour nous, une clé pour savoir quelle chose mettre en priorité dans nos vies. Et de façon plus générale, une clé pour nous aider à savoir quel sens donner à notre vie. Concernant cette espérance et les promesses que nous trouvons dans la Bible, je vous invite à lire une description qui nous est faite dans l'Apocalypse du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Cela nous aide à mieux comprendre cette espérance. Et on lit dans Apocalypse 21, les premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et là, je crois que Matthieu et Anne-Laure, ils en savent quelque chose. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Je vous invite maintenant à un petit temps de silence pendant lequel nous pouvons méditer ces vérités. Après quoi nous partagerons la scène. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons ce matin, avant de partager ce pain, cette coupe, nous approcher de toi avec humilité, nous souvenir de ce sacrifice que tu as offert, de ta vie, que tu as offert afin que nous soyons lavés du péché qui nous habite. Oui, Seigneur, merci pour... Merci parce que tu as institué cette scène qui nous rappelle ton sacrifice, qui nous rappelle l'œuvre que tu as accomplie pour nous, qui est la manifestation de ton amour pour nous. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour cela. Et c'est vrai, aide-nous à garder ces choses présentes dans notre esprit, dans notre mémoire. Nous venons de le voir, c'est vrai que partager la scène, c'est un moment solennel. On ne le fait pas à la légère. Partager la scène, c'est nous rappeler le sacrifice de Jésus-Christ. Nous nous replaçons ainsi tout à nouveau devant lui. Et c'est une excellente occasion de se remettre face à notre Dieu, de prendre conscience que peut-être quelque chose m'éloigne de lui, de la lui apporter afin que rien ne vienne interférer dans ma relation avec mon Dieu. Et je vous invite à faire cela dans une attitude de recueillement et de reconnaissance aussi pour ce salut si merveilleux que nous avons reçu gratuitement. En partageant la scène de cette façon, nous annonçons aussi le salut en Jésus-Christ à ceux qui nous voient vivre, mais aussi aux puissances invisibles, les anges d'une part qui se réjouissent avec nous, et les démons aussi, qui fuient à la lumière de Jésus-Christ. En partageant la scène de cette façon, nous nous rappelons aussi la bienheureuse espérance qui nous réjouit et qui nous aide à laisser Jésus-Christ Seigneur de tous les aspects de notre vie. Cette bienheureuse espérance qui nous aide aussi à lui laisser tous les recoins de notre personne, parce qu'il est l'origine, il est notre origine, il est déjà notre finalité. Il est notre finalité dans le sens où nous savons que nous passerons l'éternité en sa présence, avec tous les rachetés de tous les temps. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Et je demande à Mathieu et Anne-Laure de s'approcher pour faire la distribution. Je vous invite, pendant que les corbeilles de pain circulent, à prendre un temps aussi de prière. Que chacun se sente libre. Voilà, je laisse la place à Jean-Paul pour les annonces.
Merci pour ce temps de paix et de calme autour de la scène qui pourtant était qui rappelle le sacrifice du Christ qui était violent, qui était quelque chose de lourd, mais merci aussi pour cette paix que cela nous apporte. J'aimerais partager avec vous les annonces concernant les activités de l'Église. Dimanche prochain, notre culte aura lieu à l'Escherolles à 11h, vous avez l'habitude ou vous n'avez pas l'habitude, mais vous êtes les bienvenus. Si vous ne savez pas où c'est ou comment y monter ou que vous avez besoin d'un véhicule, vous téléphonez chez moi, par exemple, ou chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. On fera la sortie par tous les temps, sauf si vraiment c'est pas possible. Donc jusqu'à 8h30, 9h, vous pouvez téléphoner chez moi en cas d'incertitude, hein. Si vraiment on sait que ça va être très mauvais, on mettra sur le site déjà le samedi et puis on fera un culte ici. Ce sera un culte de partage et de témoignage, comme on l'a déjà fait par le passé. Donc un moment convivial, cool, dans un lieu différent et on veut se réjouir. Prenez votre pique-nique, prenez vos affaires. Jusqu'à 10h30, on va dire qu'il y aura un moyen de vous transporter sur les derniers kilomètres. Autrement, ça sera avec vos jambes. Mais on pourra en tout cas porter les sacs et les affaires. Pour toute question, vous m'appelez en tout cas à la maison, il n'y a pas de souci. Le mardi d'après, le 20, étude biblique pour les aînés ici. Et puis cet après-midi, à 15h ici, volet. Pour tous ceux qui le veulent, 15h volet, ici. Voilà. Avant de lire encore un petit passage, juste donner quelques nouvelles et sujets de prière. Nouvelle de Jacques, Marie de Guilaine, donc qui est là parmi nous aujourd'hui. Jacques était greffé mardi, donc suite à son accident. Les résultats de la greffe seront connus demain, simplement. Ça a réussi, ça n'a pas réussi. Et dans le cas qu'on souhaite, bien sûr, ayant réussi, Jacques partira pour un centre de rééducation de Grand Brûlé entre Saint-Étienne et Lyon pour un certain temps. Et la Guilaine souhaite pouvoir aussi le rejoindre pour quelques temps. Le moral n'est pas terrible, terrible. Guylaine m'a dit ce matin, ça donne bien l'image. Et voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été en pleine liberté et qu'on a enfermé. Voilà, enfin, on connaît l'amour de Jacques pour être un petit peu solitaire et seul et libre. Donc voilà, en tout cas, on veut vraiment continuer à prier pour Jacques, pour Guylaine aussi. Continuer à prier, on s'est engagé ce mois, vous vous souvenez, pour Mélanie, tout le mois pour Mélanie, pour la famille Haddad aussi, continuer à prier vraiment, et puis en les remettant vraiment que tout se passe comme Dieu le veut. Et puis j'aimerais accueillir monsieur et madame Trottin, qui sont là pour la première fois. On se réjouit. Bienvenue en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver aussi. Voilà, je n'ai pas d'autres annonces à partager. Alors, je vous invite à vous lever et je vous lirai simplement ce que, à la fin de cette deuxième lettre que Paul envoyait aux Corinthiens, dans cette église où il y avait beaucoup de problèmes aussi, de choses qui déraillaient complètement, où Paul le rappelle et il reprend les mêmes termes qu'il avait repris dans la scène, justement, on parle de la scène. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Ça, c'est une affirmation forte. Et puis, la fin de sa lettre, au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine à chacun.